On a commencé par la synagogue de Nazareth, et puis ensuite on était à Megiddo. On a vu comment on pouvait rejoindre là, en étudiant ce que le terrain nous propose, le Christ dans la solitude incomprise de sa montée à Jérusalem. Ensuite nous avons grimpé au sommet du Carmel, la montagne de la retraite et du choix, le problème de l'identité et de la culture. Ensuite nous sommes descendus dans la Pentecôtière et nous avons rejoint Saint-Pierre et Saint-Paul à Césarée maritime. Et nous montons à Jérusalem en compagnie de Saint-Paul, le parfait disciple.
Il souhaitait, afin d'être si possible le jour de la Pentecôte à Jérusalem, de Milet, il envoya chercher à Éphèse des anciens de cette ville. Alors ici, il y a le discours aux anciens d'Éphèse de Milet, qui reflète la plus personnelle peut-être des épîtres de saint Paul, l'épître aux Philippiens. C'est la même spontanéité. Oui, je vous dis que... Et maintenant, voici qu'enchaîné par l'Esprit, je monte à Jérusalem sans savoir ce qui y adviendra, sinon que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que chaînes et tribulations m'attendent. Mais je n'attache aucun prix à ma propre vie, pourvu que je mène à bonne fin ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Lisez-vous l'Épître aux Philippiens. L'essence qui est derrière moi, je me précipite de tout mon être en avant, n'ayant qu'un seul but, c'est de lui devenir conforme dans sa mort, afin de lui devenir conforme dans sa résurrection. Et maintenant, voici que je le sais, vous ne reverrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en proclamant le royaume. Et alors, il exhorte ses auditeurs, il montre qu'il est fier d'avoir travaillé de ses mains pour n'être à charge à personne. On l'accompagne jusqu'au bord de la mer, là. Il peut imaginer très bien la scène ici. Et se mettant à genoux avec eux tous, il pria. Tous éclatèrent en sanglots. Se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé sur toute la parole qu'il avait dite, qu'il ne put revoir son visage. Puis ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Et alors, à partir du chapitre 21, c'est tellement la montée à Jérusalem que la Bible de Jérusalem titrait la montée à Jérusalem. Manifestement, Saint-Luc veut montrer que Paul, parfait disciple, fait sa montée à Jérusalem comme Jésus. Vous vous rappelez comment l'évangile de Saint-Luc a été construit comme une montée à Jérusalem à partir de la transfiguration. Alors la géographie n'a plus tellement d'importance, si ça n'est plus par le chemin de cette terre sainte, c'est en faisant du cabotage sur les bateaux phéniciens que nous rejoignons ici à Césarée, monte à Jérusalem. Et tenez, regardez bien, vous allez le voir arriver. Lorsque nous étant arrachés à eux, nous eûmes gagné le large, nous cinglâmes droit vers Kos. Le lendemain, nous atteignîmes Rhodes, de la Patara, c'est chapitre 21. Ayant trouvé un navire en partance pour la Phénicie, nous y montâmes et partîmes. Arrivés en vue de Chypre, nous la laissâmes à gauche pour voguer vers la Syrie. Et nous abordâmes à Tyre, car c'est là que le bateau devait décharger sa cargaison. Ayant découvert les disciples, nous restâmes là 7 jours. Poussé par l'Esprit, il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais notre séjour achevé, nous partîmes. Nous marchions, escortés de tous, y compris femmes et enfants. Hors de la ville, nous nous mîmes à genoux sur la grève pour prier. Puis, ayant fait nos adieux, nous montâmes sur le navire, et ces gens s'en retournèrent alors chez eux. Et nous, achevant la traversée, nous nous rendîmes de Tyre à Ptolémaïs, c'est comme ça qu'on appelait Saint-Jean d'Acre, à Côme, au nord du Carmel. Après avoir salué les frères et être restés un jour avec eux, nous repartîmes le lendemain pour gagner Césarée. Voilà qui arrive. Descendus chez Philippe l'évangéliste, qui était un des 7, nous demeurâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. On a parlé de Philippe déjà. Comme nous passions là, plusieurs jours, un prophète du mont Agabus descendit de Judée. Il vint nous trouver. Et prenant la ceinture de Paul, il s'en lia les pieds et les mains en disant, voici ce que dit l'Esprit Saint, l'homme auquel appartient cette ceinture. Les Juifs le liront comme ceci à Jérusalem et le livreront aux mains des païens. À ces paroles, nous nous mîmes avec ceux de l'endroit à supplier Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt, moi, non seulement à me laisser lier, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il n'y a pas moyen de le persuader, nous cessâmes nos instances, disant que la volonté du Seigneur se fasse. Alors, arrivé à Jérusalem, toujours, il y a des discussions avec les judéo-chrétiens. Paul veut être juif avec les juifs, païens, plutôt chrétiens, sans les observances mosaïques, avec ceux qui viennent de la gentilité. Mais il fait des concessions à ceux qui sont pour la tendance judéo-chrétienne. Et alors, il va faire un sacrifice, un vœu dans le temple. Et là, il est reconnu. Le voilà, celui qui a introduit des Grecs dans le temple et profané ce saint lieu. Ils avaient vu l'Éphésien Trophime avec lui dans la ville. Et il pensait que Paul avait introduit dans le temple, par-delà cette barrière dont nous avons parlé en lisant l'épître aux Éphésiens l'autre jour. La ville entière fut en effervescence. Le tribun réussit à faire échapper Paul au lynchage. La scène se passe dans la forteresse de l'Antonia, probablement. Et alors, Paul obtient la permission de parler. Il parle hébreu. Et il raconte sa conversion. Et puis alors, ça dure assez longtemps. On l'écoute très attentivement. Et puis, il dit qu'un jour, dans le temple, la voix lui dit « Va, cette loi, vers les païens que je veux t'envoyer. » Est-ce que vous vous rappelez encore la scène de la synagogue ce matin? On écoute Jésus attentivement jusqu'à ce qu'il parle de Naaman le Syrien et puis de la Syro-Phénicienne. À ce moment-là, on le conduit vers le mont de la précipitation. Eh bien, ici, vous avez, c'est curieux, le même réflexe qui se déclenche. Jusque-là, on l'écoutait. Mais à ces mots, c'est au loin vers les païens que moi je veux t'envoyer, on se mit à crier au-dessus de la terre, un pareil individu n'est pas digne de vivre. On vociférait, on jetait ses vêtements, on lançait de la poussière en l'air. Le tribun le fait introduire dans la forteresse, ordonne de questionner par le fouet, mais il s'aperçoit à temps qu'il est croyant romain, et alors ça risquait de l'attirer de gros ennuis. Alors Paul comparait devant le Sanhédrin. Frère, je suis moi pharisien, fils de pharisien. C'est pour notre espérance, la résurrection des morts, que je suis mis en jugement. Alors l'assemblée se divise, les Sadducéens, qui formaient une partie de l'assemblée, ne croyaient pas à la résurrection des morts, mais les pharisiens alors disent, nous ne trouvons rien de mal en cet homme, mais si un esprit lui avait parlé, ou un ange, et la dispute devient de plus en plus vive. Alors il y a un complot, et Paul alors est emmené pour sa sécurité à Césarée, sous garde armée jusqu'à Antipatris, et puis il arrive à Césarée, et il reste en prison à Césarée, sous le procuratorat de Félix d'abord, et il dit, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis mis aujourd'hui en jugement. Félix vint avec sa femme Drusille qui était juive, on écoute Paul, mais alors il y a un changement, de Paul on appelle à César, et puis alors Festus succède à Félix, et puis Paul est amené un beau jour à comparer devant le roi Agrippa, et un païen la prépare les minutes du procès. Il y a cette phrase tout à fait extraordinaire, il dit, ils avaient seulement avec lui je ne sais quelle contestation touchant leur religion à eux, et touchant un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être en vie. C'est tout le problème, c'est là, savoir si Jésus est oui ou non ressuscité. Et un juif est plus capable de comprendre qu'un païen, parce que pour un païen, la résurrection des morts, l'idée de survie peut-être, mais la résurrection des morts, c'est une idée juive, le Dieu qui a les issues de la mort. Vous rappelez, on l'a développé, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit, Paul se présente ici comme spécifiquement juif dans cette défense de la résurrection d'entre les morts.
Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Mechaye et Hametim. Béni sois-tu Seigneur, roi de l'univers, qui ressuscite les morts.
Alors il dit à Agrippa, toi tu es au courant de toutes les coutumes et controverses des juifs, et écoute-moi avec patience, c'est pour cette espérance de la résurrection que je suis mis en accusation. Pourquoi juge-toi incroyable parmi vous que Dieu ressuscite les morts? Vous vous rappelez ce qu'on a dit dès Lachish le premier jour, à El, la Nouel, le Moshaot, Vel Elohim Adonai, la Mavet Totsaot. Le Dieu, notre Dieu, est le Dieu de délivrance, à lui sont les issues de la mort. Alors il raconte encore sa conversion. Soutenu par la protection de Dieu, j'ai continué jusqu'à ce jour à rendre mon témoignage devant petits et grands, sans jamais rien dire en dehors de ce que les prophètes et Moïse avaient déclaré devoir arriver, que le Christ souffrirait, et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations païennes. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et le roi Agrippa te répondra à Paul, encore un peu, et par tes raisons, tu vas faire de moi un chrétien. Et Paul, qu'il s'en faille de peu ou de beaucoup, puisse Dieu faire que non seulement toi, mais tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis moi-même, à l'exception des chaînes que voici. Alors Paul, qui a fait appel à César, est embarqué pour Rome, vous lirez la tempête et le naufrage, le séjour à Malte, et puis ça se termine par une rencontre avec les Juifs de Rome. Et c'est tout le caractère tout à fait extraordinaire de la visite du pape à la synagogue de Rome. Ça a l'air de renouer avec quelque chose qui s'est interrompu à cette époque-là. Pour moi, c'est extrêmement bouleversant de lire ces textes. Et c'est un devoir pour les chrétiens de se tenir au courant d'un dialogue judéo-chrétien là, qui est difficile. On est d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord maintenant, mais qui quand même est très prometteur et qui a fait depuis quelques années des progrès formidable quand on pense à ce que c'était il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Et Paul a une conclusion assez pessimiste. C'est aux païens qu'a été envoyé le salut de Dieu. Eux, du moins, ils écouteront le signe de Jonas. Mais c'est pas fini, cette histoire-là. C'est pas fini. Et moi, encore une fois, j'ai trop profité de cette connaturalité que ce peuple qui garde la marque de l'élection a toujours avec le tronc du peuple de Dieu, dans la connaissance de la terre et de la langue, pour en parler avec avec quelque agressivité ou quelque mépris ou quelque même condescendance que ce soit. Enfin, c'est un très très grand mystère, et saint Paul, c'est comme ça qu'il termine dans l'épître aux Romains, on l'a déjà lu, vous rappelez. C'est un très très grand mystère qu'il faut bien se garder de ne pas rabaisser aux dimensions de nos petites idées. C'est un mystère où la sagesse de Dieu est engagée en ce qu'elle est le plus subtil. Et ce mystère, nous le vivons. Et on ne peut pas être chrétien sans être attentif passionnément à ce mystère. Ça fait partie intégrale de la théologie de l'Église. Lisez les textes conciliaires. Oui, Paul était en captivité à Rome, proclamant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, c'est avec pleine assurance et sans obstacle. A-t-il terminé à Rome? Certains pensent qu'il a été par la suite encore en Espagne, avant d'être martyrisé, comme Pierre, pendant la persécution de Néron. On vénère son... Il a été décapité, il n'a pas été crucifié parce qu'il était citoyen romain. Et à la sortie de Rome, vers le sud, si je me souviens bien, aux Tréfontaines.
Aux Trois-Fontaines.
J'étais là une fois dans ma vie. J'ai fait tous les voyages de Saint-Paul, kilomètre par kilomètre, sur une pétrolette dans les années 50, au début des années 50, avec un célèbre professeur en croupe. Et on a... Mais voyez-vous, alors c'est là qu'on voit que autant cette terre sainte parle kilomètre par kilomètre, toutes les pierres crient. Et là, on passe par Éphèse, on passe par le Taurus, on passe par Colosse, par Éphèse, par Milet. Mais ça ne parle pas comme cette terre. Il s'est formé ici, enraciné dans cette terre, un message destiné à l'universalité du monde. Mais ici, la terre et le message sont liés, pas comme nulle part ailleurs. Ce qui s'est formé ici est destiné à se répandre dans le monde entier. Il n'y a pas le même lien entre le message et la terre dans les autres pays. C'est pour ça que le voyage en Terre Sainte, c'est pas un voyage comme les autres. Évidemment, le directeur de pèlerinage, il commence par Lourdes, ensuite si ça réussit, il va à Rome, ensuite si ça réussit, il va à Fatima, puis ensuite, il n'y a plus de ça, en venant dans tous les pays du monde, en Terre Sainte, puis dans tous les pays du monde. Eh bien, il faudrait tout de même pas qu'on mette sur le même plan, chez les chrétiens, les voyages qu'on fait un peu partout, pour s'élargir, et puis le voyage qui permet de retrouver la sève à la racine dans cette Terre Sainte. Et à mon avis, ceux qui le peuvent, là, les prêtres, ceux qui sont chargés d'enseignement, ils devraient faire comme dit sainte Thérèse de Lisieux, commencer par apprendre l'hébreu. Et tenez, j'ai un texte à Jérusalem que je voudrais vous lire, je ne l'ai pas ici, sur l'importance d'apprendre les langues originelles. C'est pas du tout pour revenir en arrière, c'est pour revenir en arrière pour mieux rebondir en avant. J'ai lu dernièrement d'un professeur que j'estime beaucoup que la Pentecôte avait fait éclater toute langue originelle. À mon avis, c'est un sophisme. Hein. En retournant chercher la sève à la racine, on trouve une vigueur nouvelle pour l'expansion universelle et le dialogue œcuménique. C'est dommage que certains professeurs respectables et respectés et qui ont fait des travaux magnifiques, quelquefois, on n'a pas toujours le temps, pas devant les journalistes, de dire ce qu'on voudrait dire avec toute la lucidité désirable, on est pris au dépourvu. Et là, ça a dû lui échapper. Je suis sûr que si on le mettait au pied du mur, il reviendrait sur cette réflexion sommaire.
Mais alors, un pèlerinage en Terre Sainte, oui, un pèlerinage pas comme les autres, et pourtant, oui. On doit partout voir l'échelle de Jacob plantée.
Oui, mais alors on vient justement ici pour justement apprendre que l'échelle de Jacob est maintenant partout plantée. Dieu est dans le lieu, je ne le savais pas. Mais encore une fois, c'est pas indispensable pour un chrétien. Mais saint Jérôme, là, certains ont parlé du 8e sacrement. Et moi, je crois, à condition qu'on ne perde pas son temps, qu'on ne fasse pas des mélanges, qu'on vienne ici vraiment pour retrouver des enracinements. Qu'on ne perde pas plus de temps qu'il ne faut à des choses qui ne sont pas l'essentiel. Mais il pourrait se déclencher ici une prédication à dimension du monde, une Pentecôte. Une Pentecôte. Cette terre, j'espère que vous l'avez fait sentir. Il y a une harmonie extraordinaire entre les textes de l'Ancien Testament et ce qu'on peut voir dans le Sud. Même si on ne doit pas jusqu'au Sinaï, si on tourne dans la montagne des Lattes. Il y a une harmonie encore plus forte entre la Galilée et puis le Nouveau Testament et les Évangiles. Et puis Jérusalem, alors, Jérusalem, bah, et ben justement, on va tourner autour de Jérusalem. On n'a pas encore tout ce qu'il faut, hein. Il faut encore faire un circuit vers le nord, là. On va tourner à Jérusalem ce soir, mais on ne va pas encore faire le thème Jérusalem comme lieu saint au singulier. Il nous reste encore à parcourir en deux journées. Bah, d'abord, ce qu'on peut faire dans le nord, à la charge du culte en esprit, en vérité, vers Sichem, par la route des sanctuaires, Bethel, Silo, et revenir par cette route qui domine la vallée du Jourdain, là, du côté d'Ephraim, où Jésus était en retraite avant sa passion. Et puis, il nous reste alors, et c'est très très important, à relire dans les horizons de Bethléem cet admirable prologue de Matthieu, ce bon scribe qui tire de son trésor des choses anciennes, des choses nouvelles, voir comment il procède à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament. Généalogie du Nazoréen. On aura toute une journée là autour de pour examiner ça, c'est très important. Et puissiez-vous, après ça, partir avec la conviction que l'Église a raison quand elle vous propose dans le missel et dans la liturgie des heures une lecture indissociablement faite de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et moi, j'ai jamais compris pourquoi dans les séminaires il y avait le professeur d'Ancien et le professeur de Nouveau. Hein, c'est curieux, comme s'il n'y avait pas une dialectique qui nous invitait constamment à aller de l'un à l'autre.
Alors, à partir du soir du 11e jour, on s'installe à Jérusalem, on campe dans le jardin des Pères Lazaristes, là dans la vallée du Micocoulier. Et avant que tout se centre autour de Jérusalem, le dimanche et puis déjà le samedi, alors le jeudi et le vendredi, il nous reste encore à récupérer tout ce qu'on n'a pas vu et qui manque encore pour connaître vraiment Jérusalem. Tout ce qui manque au nord, c'est le jour 12. Et puis tout ce qui manque alors dans la région de Bethléem qu'on a télescopé en partant vers le sud le tout premier jour. Alors le jour, à partir du moment où on campe à Jérusalem, bah, l'Eucharistie est toujours au sommet de chaque journée. Mais dans les premiers jours, on célébrait l'Eucharistie plutôt en fin de journée. Il nous est arrivé de la célébrer aussi au milieu de la journée, même un certain dimanche au début. Mais quand on est à Jérusalem, là on prend son élan dans l'Eucharistie et dans la prière liturgique le matin. Et alors, je vais vous faire entendre le psaume invitatoire, là, qu'on a déjà entendu à plusieurs reprises, le psaume 95, là, qu'on a entendu. On va l'entendre maintenant chanter en hébreu par le père supérieur de la maison Isaïe. Bah, si le programme est si, quelquefois, cette pièce et de morceaux, là, vous avez remarqué qu'il y a pas mal d'incohérences, c'est parce que au plein milieu du parcours, on est revenu à Jérusalem. Il s'agissait de célébrer le 30e anniversaire de la maison, qui a été fondée le jour de l'Annonciation, il y a exactement 30 ans, et puis presque à la même date, on célébrait aussi le 70e anniversaire du père Marcel Dubois, qui est le supérieur de la maison et qui préside à ses destinées depuis déjà presque le début. Alors on va entendre le psaume invitatoire de la bouche du père supérieur, du père Marcel Dubois.
Le rumeur à l'homme à la donna, il n'a rien le tsouriché, et nous n'est qu'à demain sa neuf boto d'abismiro, n'a rien l'eau. Qui el gadol Adonai, un el gadol alkol, Elohim asher bo yado merkore aretz v'to afot arim lo. Asher lo hayam v'hu asa'u, v'yavesh et yadav yatzaru, bo nishtara v'venicha, nivrecha lifnei Adonai, osenu.